Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le nucléaire connaît un retour en grâce sur le continent européen. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine qui oblige l'Europe à repenser sa dépendance au gaz et au pétrole russe. L'atome, dénoncé par de nombreux écologistes comme une énergie dangereuse en raison des risques d'accidents et de la gestion des déchets, l'atome et sa faible empreinte carbone figurent de nouveau dans les projets de plusieurs pays. La Turquie espère ainsi voir sa première centrale entrer en fonction l'an prochain, une centrale entièrement financée et construite par la Russie. Bonjour Anne Lauer.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Anne, les autorités turques affirment qu'une fois en fonctionnement à pleine capacité, cette centrale à 4 réacteurs fournira à elle seule 10% des besoins en électricité du pays et de ses 84 millions d'habitants.
Oui, la centrale d'Akkuyu est en travaux depuis 2018 dans le sud du pays, dans la province de Mersin. C'est une centrale qui a vu le jour grâce à un accord signé en 2010 entre le gouvernement turc et le gouvernement russe et qui appartient intégralement à des entreprises russes. Son actionnaire très majoritaire n'est autre que Rosatom, une entreprise publique créée il y a 15 ans par Vladimir Poutine.
Cette centrale est pourtant présentée comme un grand projet national qui vise à réduire la dépendance de la Turquie en matière énergétique.
Oui, puisque la Turquie importe la quasi-totalité du gaz qu'elle consomme, dont un tiers lui sert à produire de l'électricité. Même si le pays cherche ces dernières années à diversifier ses sources d'approvisionnement, son premier fournisseur reste de loin la Russie, qui lui a fourni l'an dernier 45% de son gaz. Avec sa centrale nucléaire, la Turquie pourra sans doute se passer d'une partie de ses importations, mais elle continuera de payer des milliards à la Russie, car l'accord intergouvernemental oblige la Turquie à acheter 70% de l'électricité produite par les deux premiers réacteurs pendant 15 ans et 30% de l'électricité produite par les deux autres réacteurs, là aussi pendant 15 ans. Le tout à un prix fixe de 12,35 centimes de dollars le kilowattheure, un prix très onéreux par rapport aux autres formes d'énergie que la Turquie achète localement pour produire de l'électricité, issue du soleil, du vent, mais aussi hydroélectrique. Pour Özgür Gürbüz, journaliste spécialisé dans les questions environnementales et militant anti-nucléaire, c'est une aberration.
Il suffit de faire le calcul. La Turquie devra payer au minimum 32 milliards de dollars pendant 15 ans pour l'électricité produite par cette centrale. Autrement dit, la Turquie devra payer environ 2 milliards de dollars par an à la Russie pour la seule centrale d'Akkuyu, en plus de ce qu'elle lui paie pour le gaz. Elle sera obligée de payer, même si elle n'a pas besoin de toute cette électricité. Même si ses barrages sont pleins et que ses centrales hydroélectriques fonctionnent à plein régime, elle devra laisser couler l'eau pour acheter l'électricité produite par la Russie à Akkuyu.
Anne, la question nucléaire et celle de la dépendance à la Russie alimentent-elles un débat au sein de la société turque, en particulier en ce moment avec la guerre en Ukraine ?
Eh bien, en dehors des milieux écologistes, pas vraiment, ou si peu, en grande partie parce que les médias ici sont très largement verrouillés depuis une dizaine d'années. Pourtant, un débat est urgent, plaide Özgür Gürbüz, qui fustige l'absence de transparence sur la construction et le contrôle de la centrale d'Akkuyu.
Quand la Russie a entrepris ce projet, la Turquie n'avait aucune infrastructure liée au nucléaire, en particulier aucune infrastructure légale. Le Conseil de régulation du nucléaire n'a été créé qu'en 2018 et il n'a réellement commencé à travailler qu'il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Russie a fait comme elle a voulu. Des informations ont fuité sur des fissures, des incendies, des accidents sur le chantier. Mais en tant que membre d'ONG de la société civile, nous n'avons jamais réussi à obtenir des informations. Quand nous exprimons nos inquiétudes, ce n'est pas le ministère turc de l'énergie que nous trouvons face à nous, mais l'entreprise russe.
Reste que les travaux avancent vite, hein, puisque les autorités turques ont bon espoir de mettre en route le premier réacteur l'an prochain, en 2023 donc, année du centenaire de la République et année électorale pour le président Erdogan. Quant à la Russie, accablée par les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, elle aussi est certainement pressée de mettre en route cette centrale et de commencer à en tirer des revenus, même si les sanctions économiques pourraient poser des problèmes de financement pour la suite de ce chantier et pour les autres chantiers de centrales nucléaires qu'elle conduit à l'étranger.
Merci Anne, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Les Pays-Bas, eux, ne possèdent pour l'instant qu'une seule centrale nucléaire. En raison de son âge avancé, elle devait fermer d'ici 2033. Mais face à la crise énergétique et sous l'impulsion du parti de droite libéral du Premier ministre, Mark Rutte, elle devrait finalement fermer bien plus tard. Et surtout, le Royaume veut désormais construire deux centrales supplémentaires. À La Haye, les précisions d'Antoine Moutot.
S'il y a bien un endroit aux Pays-Bas qui symbolise les crispations de ces dernières décennies sur la question du nucléaire, c'est Borssel. Cette centrale située en Zélande, dans le sud-ouest du pays, est la seule que compte le royaume. C'est notamment là qu'en 1979, en réaction à la catastrophe de Three Mile Island aux États-Unis, des milliers de manifestants se sont réunis pour demander la fin du nucléaire aux Pays-Bas. Mais aujourd'hui, 49 ans après sa mise en service, Borssele tourne toujours à plein régime. Rien n'a changé donc, ou presque. Le mouvement néerlandais anti-nucléaire, lui, semble s'être essoufflé, et malgré une longue période de tabou liée à la catastrophe de Tchernobyl, puis relancée un temps par celle de Fukushima, les autorités néerlandaises misent de nouveau sur cette énergie. La centrale construite en 1973 devait initialement fermer en 2013, mais elle a été dans un premier temps prolongée jusqu'en 2033 et finalement ces derniers mois, le nouveau gouvernement de coalition de la droite et du centre a annoncé vouloir garder Borssele en service bien après 2033. Surtout, il veut désormais construire deux centrales supplémentaires. Même si l'ampleur du projet étonne aux Pays-Bas, ce tournant pronucléaire n'est pas vraiment une surprise. Cela faisait plusieurs années que le parti de droite libérale du Premier ministre Mark Rutte en annonçait la couleur. Mais voilà, la construction de ces centrales pourrait connaître une opposition dans les pays voisins, la Belgique et l'Allemagne. Depuis plusieurs années, la commune belge de Kalmthout se montre inquiète face à la vieille centrale de Borssele, située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Les autorités locales reprochent aux Néerlandais de ne pas hésiter à s'alarmer sur l'état de la centrale de Doel, côté belge, tout en étant moins tatillons lorsqu'il s'agit de leurs propres infrastructures.
Parmi les alternatives énergétiques au gaz russe, il y a le nucléaire donc, mais aussi le gaz naturel liquéfié. Son empreinte carbone est en moyenne 2,5 fois plus importante que le gaz transporté dans les tuyaux. Et pour le gaz de schiste américain qui arrive par bateau, c'est encore pire. Il n'empêche, la Grèce se verrait bien devenir rapidement un carrefour énergétique européen et importer du gaz américain avant de le redistribuer à Athènes. Joël Bronner.
Nous sommes à Washington à la mi-mai. À la tribune, Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec, s'apprête enfin à prononcer un discours de 40 minutes face au Congrès américain. Enfin, car sans la pandémie mondiale de Covid, cette visite diplomatique aurait dû se dérouler un an plus tôt, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la Révolution grecque de 1821, qui a mené à l'indépendance du pays. Or, la révolution en cours en Europe se déroule à présent sur le plan de l'approvisionnement énergétique, à l'heure où le conflit en Ukraine a précipité les Européens à la recherche d'alternatives au gaz russe. Et cette révolution de la logistique énergétique européenne, Athènes ambitionne là aussi d'en être au cœur. Importer de larges quantités de gaz naturel liquéfié, qui ne serait pas seulement pour la Grèce, mais aussi pour nos voisins des Balkans. Voilà précisément l'ambition affichée ce jour-là par le dirigeant grec devant les députés et sénateurs américains. Autrement dit, la Grèce aspire à devenir une importante porte d'entrée pour le gaz naturel liquéfié, le GNL, produit par les États-Unis. Pour l'heure, cette volonté grecque de devenir une plaque tournante du transfert d'énergie vers l'Europe s'est concrétisée par la nomination d'un conseiller spécial auprès du Premier ministre, un poste créé pour l'occasion pour Nikos Tsafos, expert des questions énergétiques. Sa mission, faire la liaison au plus haut niveau entre Athènes et Washington pour mettre en place ce commerce de GNL. Concrètement, au niveau des réservoirs de stockage, la Grèce entend s'appuyer sur trois sites à développer. D'abord le port d'Alexandroupoli, dans le nord du pays, qu'elle souhaite voir rapidement devenir un carrefour énergétique pour toute la région. Mais aussi la petite île de Revithoussa, proche d'Athènes, et le port de Corinthe. En Grèce, la révolution énergétique pourrait donc rapidement se mettre en marche.
Oui.
« L'épidémie de Covid avait été comme un coup de semonce. La guerre en Ukraine l'a confirmé. Les chaînes d'approvisionnement sont fragiles. Et la question de la souveraineté se pose désormais pour l'Europe et pour l'Afrique aussi. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Personne n'avait imaginé que l'invasion russe allait menacer des vies à des milliers de kilomètres des bombardements. La guerre perturbe l'ensemble de l'équilibre agroalimentaire mondial et le secrétaire général des Nations Unies craint un ouragan de famine. Car l'Ukraine produit des biens de base, du blé, environ 10% des exportations mondiales, mais aussi du tournesol, du maïs, donc de l'alimentation pour le bétail. Et au-delà de ces productions, toutes les filières ou presque sont touchées. Tout va coûter plus cher. La viande, les œufs, même le sarrasin.
La Russie est le premier producteur, mais aussi un acteur majeur du commerce international du blé noir que l'on retrouve dans les nouilles soba en Asie, les porridge et les soupes des pays de l'Est ou encore dans les galettes bretonnes en France.
Même les producteurs de cacao ou de bananes sont concernés. C'est expliqué dans la chronique des matières premières sur RFI. L'Ukraine et la Russie consomment 2 millions de cartons de bananes par semaine. Dans notre économie mondialisée, tout est lié. Cela pose problème pour la sécurité alimentaire. Prenons le blé. Le monde entier consomme du blé, mais il n'y a qu'une dizaine de gros exportateurs. La Russie, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, le Kazakhstan, l'Ukraine. Si un de ces exportateurs est incapable de produire, ça se ressent immédiatement. En Égypte, par exemple, le pays consomme environ 24 millions de tonnes de blé chaque année, dont plus de la moitié achetée sur les marchés russes et ukrainiens. Pourquoi eux ? Parce qu'ils sont moins chers, explique le chercheur Sébastien Abyss sur France Culture. Mais pas seulement.
Le taux de protéines élevé du blé russe ou ukrainien permettent notamment de faire plus simplement le pain plat qui est privilégié au Moyen-Orient et en Égypte. Mais vous avez également une réalité géographique, c'est-à-dire que de la mer Noire à l'Égypte, c'est un peu tout droit. Et vous avez une autre réalité, c'est politique. La Russie, tout comme l'Ukraine, ont été sur le marché égyptien ces dernières années pour s'imposer sur ce marché.
Il y a une géopolitique du blé. Et si les pays qui produisaient du blé, historiquement, sont devenus maintenant dépendants de l'extérieur, c'est aussi lié à la pression démographique. La Tunisie était le grenier à grains de l'Empire romain. Aujourd'hui, elle importe, comme la plupart des pays. De plus en plus, d'ailleurs, dit Sébastien Abyss.
Au début des années 2000, on consommait à peu près dans le monde 600 millions de tonnes de blé. Aujourd'hui, on est à peu près à 800 millions de tonnes par an. Au début du siècle, l'exportation, la part qui était internationalisée, c'était un peu moins de 15%. Aujourd'hui, sur les 800 millions de tonnes consommées dans le monde, le commerce mondial, c'est 25%. Vu les besoins du monde, imaginez qu'il faudrait produire moins serait géopolitiquement irresponsable.
Cette internationalisation croissante des matières premières agricoles est inéluctable, parce qu'il y a de plus en plus d'estomacs à remplir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer la production locale. Au contraire, pour avoir une sécurité alimentaire, il faut être résilient. Mais cela veut dire que l'on ne peut pas produire moins, malgré toute la pression environnementale que cela suppose. Parce que si des gens manquent de nourriture, ils n'auront qu'une alternative, l'exode. Autrement dit, si l'Europe veut considérer avec sérieux les questions migratoires, elle a intérêt à réfléchir à sa politique agricole.
Et ces questions de souveraineté alimentaire, elles se posent déjà très concrètement dans plusieurs pays africains. Léa Lisa Westerhoff en discute dans Carrefour de l'Europe, Ukraine-Afrique, les nouveaux équilibres mondiaux, avec ses invités. Adlène Mohamedi, il est directeur scientifique du cabinet de recherche à ESMA, enseignant à Paris 3, et c'est l'auteur d'une thèse sur la politique arabe de la Russie post-soviétique. Et puis le chercheur Paul-Simon Andy, qui dirige le bureau de l'Institut d'études et de sécurité à Addis Abeba en Éthiopie. Il revient sur les conséquences de la guerre dans son pays.
Il est impacté par ce conflit. À Addis Abeba, on a été habitué ces derniers jours à des files interminables devant les stations essence. Les files étaient inédites, même pour les Éthiopiens qui sont habitués à attendre longtemps à remplir le réservoir de leur voiture. Ailleurs en Afrique, c'est surtout les répercussions sur le prix du blé se font ressentir sans que forcément le prix de la baguette ne soit forcément impacté. Mais on sait très bien que les boulangers, en maintenant le prix, font un pain beaucoup plus pauvre. Donc oui, il y a un impact qui se fait sentir et qui est appelé à s'amplifier si la guerre devait continuer.
Adeline Mohamedi, sur les marchés que vous étudiez, je pense à la Tunisie ou au Maroc par exemple, la situation économique est tendue?
Oui, je pense que la situation est plutôt tendue. Ça concerne à la fois les questions énergétiques et la question centrale du blé. Alors, pour la question énergétique, tous les pays ne sont pas touchés de la même manière. Le prix de l'essence va augmenter, par exemple, au Maroc, mais pas forcément en Algérie. Au Sénégal, par exemple, dès le mois de mars, on a eu une vraie pénurie, par exemple, de kérosène et d'essence. Des avions ne pouvaient pas décoller. Donc, il y a de véritables répercussions. Et ces répercussions, je pense que peut-être que le pays d'Afrique du Nord qui les vit de manière la plus forte, c'est l'Égypte, qui exportait à hauteur de plus de 50% du blé de la mer Noire. Et évidemment, on a un véritable risque de pénurie. Donc, ça nous rappelle évidemment le triste souvenir de l'année 2008 et des émeutes de la faim que l'Égypte avait bien sûr connues. Alors, dans le cas algérien, c'est très particulier parce que l'Algérie importait beaucoup de blé français. C'était l'un des principaux importateurs de blé français. Depuis quelques années, l'Algérie a voulu diversifier ses fournisseurs en se tournant vers le blé de la mer Noire, de la Russie et de l'Ukraine. Et aujourd'hui, face au problème bancaire avec la déconnexion de la Russie du système SWIFT et face au problème d'insécurité au niveau de la mer Noire, l'Algérie va forcément songer à revenir en arrière et à réimporter du blé français.
Mais si les échanges concernent les produits agricoles, ils concernent donc aussi l'énergie et surtout ces marchés, certains pays africains pourraient tirer leur épingle du jeu.
La Russie étant progressivement mise au ban de certains échanges, par effet de substitution, certains pays pourrait compenser justement les approvisionnements de l'Europe en certains produits, le gaz par exemple, le pétrole. Et un pays comme l'Afrique du Sud est un grand producteur de maïs par exemple aussi, et de certaines matières premières qu'il a en partage avec la Russie, et l'absence de la Russie de ces marchés internationaux pourrait profiter à ce pays. Donc on voit qu'il y a des perdants, il y aura certainement des gagnants aussi si la guerre devait s'enliser.
18 pays produisent du pétrole en Afrique. Cette guerre débarrassée du concurrent russe pourrait constituer un effet d'aubaine, Paul Simon-Hendy ?
Pour le pétrole, c'est un peu plus complexe que pour le gaz. Pour le gaz, les pays producteurs devraient être appelés très prochainement à augmenter leur production pour ceux qui en ont la capacité. Pour le pétrole, c'est un peu plus compliqué. La Russie faisant partie de l'OPEP+, où les décisions relatives à l'augmentation ou à la baisse de la production étant prises de manière collective. Et la Russie continue d'avoir une certaine influence au sein de l'OPEP, étant l'un des plus grands producteurs. Donc, il pourrait peut-être à court terme profiter, mais sur le long terme, je pense que la cohésion de l'OPEP devait calmer les ardeurs et ne pas forcément défavoriser la Russie dans l'approvisionnement en pétrole.
Adeline Mohamedi, on sait que les Européens sont de l'Algérie en ce moment pour savoir si elle pourrait augmenter ses exportations en gaz vers l'Europe afin de diminuer sa dépendance au gaz russe. L'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, le Mozambique et la Tanzanie, qui représentent près de 10% des réserves de gaz naturel dans le monde, pourraient bénéficier de cette diversification énergétique en Europe.
Je pense que les pays européens sont même littéralement le sol algérien pour justement explorer le gaz algérien. D'ailleurs, c'est le cas aussi d'entreprises américaines et d'entreprises russes. Une entreprise russe explorait jusqu'à récemment des champs du Sahara entre la Libye, l'Algérie et la Tunisie. C'est difficile de répondre à cette question parce que l'Algérie est quand même confrontée à un problème majeur qui est celui de sa forte demande intérieure. Avec une forte demande intérieure, il est difficile de se projeter comme exportateur susceptible d'émerger comme une véritable alternative à la Russie. L'Algérie, aujourd'hui et depuis quelques années, facilite les investissements étrangers pour explorer de plus en plus son sol, pour justement pallier cette consommation intérieure qui empêche de se projeter comme un exportateur de gaz sûr et comme une alternative à la Russie.
Au micro de Léa Lisa Westerhoff, Adeline Mohamedi, directeur scientifique du cabinet de recherche AESMA, enseignant à Paris 3 et auteur d'une thèse sur la politique arabe de la Russie post-soviétique, et le chercheur Paul Simon-Hendy qui dirige le bureau de l'ISS à Addis Abeba en Éthiopie, à retrouver dans Carrefour de l'Europe sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. À bientôt.